fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour chers auditeurs de Jet FM, bonjour Michel Valmer.
Bonjour Françoise.
Bonjour Jean-Jacques Ocard.
Bonjour Françoise.
Bonjour Jean-Jacques Ocard.
Et bonjour à vous chers auditeurs, fidèles à cette émission, qui êtes à l'écoute de cette émission de Science 89, Fantômes et Merveilles, émission une fois de plus, cette semaine, sous-titrée Vertige et Peau et Songe, ou plus exactement, du Théâtre des Possibles avec Armand Gatti. Car, rappelons-le, 2024 est l'année du 100e anniversaire de cette personnalité effervescente, éclectique aussi, mais qui nous a tous fascinés, surtout vous, Michel Valmer. Racontez-nous la première fois que vous avez rencontré Armand Gatti. Quelle impression avez-vous eue?
J'ai été très étonné parce qu'il portait... c'est pas un imperméable, non, c'était un... C'était comme un imperméable, mais c'était en cuir noir.
Veste,
en cuir. Et il me dit, tu sais qui c'est qui m'a donné ça? Et je dis, non, Armand, est-ce que vous pouvez me dire? Et il me répond, ben c'est Dorothy. C'est Dorothy. Et je ne pense pas que ce soit Dorothy qui lui ait forcément donné, mais là, on est encore dans la légende, la fabrication de la légende et la création poétique. C'est à partir des mots qui mènent...
Vous avez parlé de l'intemporalité d'Armand Gatti. Nous aussi, quand on était étudiants à l'Institut des Arts de Diffusion de Bruxelles...
Oui, parce qu'il a été à Bruxelles.
Oui, quand nous l'avons rencontré, j'ai tout de suite eu l'impression certaine, qui s'est révélée exacte par la suite, que cet homme allait changer ma vie. Et je ne suis pas la seule. Alors, revenons Jean-Jacques Ocard, parce que je pense aussi que Armand Gatti a changé votre vie. Revenons à cette interdiction de la passion du général Franco au TNP après les événements de 1968.
Oui. Est-ce qu'il a participé à 68?
Oui, oui, il a même eu les deux poignets cassés.
Ah bon, il a eu un poignet cassé.
Les deux poignets cassés, oui. Là, voilà, c'est comme ça qu'il a été... Il habitait boulevard de la Bastille, et c'est comme ça qu'il a été vivre chez Hélène Châtelain, qui était déjà sa compagne, et qui confirmant qu'elle était sa compagne, il va vivre chez elle. Et il déménage complètement chez elle en 68.
D'accord.
On peut dire que 68 a changé sa vie.
Oui, ça, voilà. Mais déjà, c'était sa compagne, donc ça.
Oui.
Alors.
Et en plus, il a écrit quand même 3-4 pièces de théâtre liées à 68, dont une assez célèbre, dans laquelle Françoise Thirion, vous avez joué. Enfin, vous avez joué. Vous étiez le personnage qui s'appelle La journée d'une infirmière ou Pourquoi les animaux domestiques. Vous l'avez joué beaucoup plus tard, après 68, mais vous l'avez joué comme. Plein de bonnes comédiennes ont joué ce texte-là. Viviane Théophilides, parmi de celles que je me rappelle.
Evelyne Didi.
Evelyne Didi, oui, avec elle, je l'ai joué, vous avez raison.
Voilà. Et La Passion du Général Franco.
Dans laquelle elle va jouer, mais plus tard. La Passion du Général Franco, qui est il y a plein de comédiens, mais donc...
Alors, elle a été interdite, cette pièce.
Oui, elle a été interdite.
C'est Malraux qui l'a interdite.
Non, c'est le gouvernement français dans lequel Malraux était ministre de la Culture.
Ah oui, donc voilà, c'est lui qui a écrit...
Il est minoritaire, hein, je veux dire, voilà, c'est tout. Hein. Il est minoritaire, il demande à Armand Gatti, il le rencontre d'ailleurs, et il lui fait une proposition que Gatti, je dois dire, qu'il aurait très très bien accepté s'il n'y avait pas eu un comité contre la censure qui était présidé par Émile Kopfermann, critique théâtrale de l'époque, et moi-même, qui étiez sur des positions assez fermes, et c'est au TNP ou rien, Malraux proposait à Gatti de prendre une autre pièce de lui, je crois que c'était L'Homme seul, et puis de faire jouer la passion du général Franco dans un autre endroit. Et sans être méchant avec notre ami Rétoré, qui était directeur du Théâtre de l'Est parisien, Malraux proposait à Rétoré de jouer cette pièce en disant qu'on le subventionnera. Rétoré était assez proche, sinon membre du Parti communiste. En tous les cas, il était proche de lui. Et donc, ils ont refusé, il a refusé à juste titre, parce que non, ce n'est pas au ministère à indiquer ce que doit être ma programmation. Voilà, et à partir de là, Gatti est parti. Il est parti en Allemagne, il est parti en Belgique, à l'Institut des arts de diffusion, où Françoise était pas enseignante, mais élève encore à l'époque. Il a été autre part, et puis il est revenu doucement en France grâce à Lucien Hatoun, lié à Théâtre Ouvert. Et puis, en 1974-75, un théâtre qui n'existe plus, mais qui est devenu après une boîte célèbre, qui s'appelait le Palace. À l'époque, le Palace était dirigé par un homme de théâtre qui vit toujours, qui s'appelle Pierre Laville, a proposé à Gatti de monter la Passion du général Franco. C'était un vrai théâtre. Et Gatti a dit oui, mais pas dans un théâtre. C'est comme ça qu'on a été dans les entrepôts Calberson, pour ne pas citer leur nom, et qui est un immense hangar dans lequel on a joué la Passion du général Franco, dans laquelle Françoise jouait, mais aussi Pierre Vial et puis plein d'autres comédiens. Et c'est comme ça que deux personnages de la ville de Saint-Nazaire, le directeur de l'AMJEP, la Maison des Jeunes et l'Éducation Permanente, Gilles Durupt, et un professeur qui avait lancé le lycée autogéré, ou qui allait le lancer, enfin, je ne sais pas bien.
À Saint-Nazaire.
À Saint-Nazaire, et qui s'appelait Gabriel Cohn-Bendit.
Ah,
ils sont venus tous les deux voir la Passion du général Franco.
Puisqu'on parle de Saint-Nazaire, je propose qu'on écoute quelque chose qui parle de Saint-Nazaire. C'est Claude Magny, je crois.
Sur le port à Saint-Nazaire, tendu filet de grève, dressé. Le journal tombe à 5 heures. Le journal tombe à 5 heures. À la une, à la une. Sur la mer qui n'appartient à personne, a crevé la cargaison du Torrey Canyon. Des macareux à bec rouge sanglu à Trébeurden. Sur les chantiers à Saint-Nazaire, dressés des grues des hommes tendus. Défilent les femmes, les enfants. Défilent les femmes, les enfants.
Vous êtes bien sûr Jet FM à l'écoute de l'émission Fantômes et Merveilles, une émission proposée par Science 89 en compagnie de Françoise Thirion et de Jean-Jacques Ocard qui nous parle d'Armand Gatti. Et ce que nous venons d'entendre, c'est une chanson de Colette Magny qui s'intitule « À Saint-Nazaire ». Qui est quand même à la fois politique mais quand Gatti, parce que Gatti est venu à Saint-Nazaire et vous y étiez, je crois, Jean-Jacques Ocard, il y avait quand même tout un élan politique qui animait sa présence dans cette ville portuaire.
Oui, tout à fait. Mais simplement, il faut rappeler deux, trois choses. Au départ, les deux personnes qui viennent, comme je citais tout à l'heure, Cohn-Bendit et Durup, qui viennent voir le spectacle, imaginent qu'ils vont accueillir la Passion du général Franco à Saint-Nazaire. Et Gatti leur dit non, il faut imaginer autre chose. Voilà, ça c'est un premier quoi. Et il il faut introduire une personne dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est Hélène Châtelain. Hélène Châtelain fait rencontrer Agati. Hélène Châtelain, son père était russe et sa mère était ukrainienne. Et elle parlait évidemment russe et elle a traduit beaucoup de livres, des pièces de théâtre russes, en français, pardon. Et donc, Hélène Châtelain fait rencontrer Agati un certain nombre de dissidents, entre autres Léonid Pliouch, etc.
Léonid Pliouch,
oui, qui est le dissident mathématicien qui a été libéré grâce à un comité de mathématiciens qui a fait qu'il est revenu, il était en hôpital psychiatrique, et il est revenu en Europe et tout particulièrement en France. Et à ce moment-là, il y avait une série de quelques intellectuels, pas très nombreux, qui étaient sur la place Rouge et qui manifestaient assez régulièrement contre la politique soviétique et sur les libertés d'expression, sur toute une série de choses. Et parmi ces gens qui étaient sur la place Rouge, il y avait un dissident qui s'appelait Vladimir Bukovsky, et puis un psychiatre qui s'appelait Guzman. Et ces deux, Guzman était en hôpital psychiatrique et Bukovsky était aussi dans un hôpital psychiatrique. Quand je dis Guzman était en hôpital psychiatrique, non pas comme médecin, mais comme malade, et, enfin, soi-disant malade. Et donc, à ce moment-là, Gatti propose à l'AMJEP comment une ville ouvrière peut-elle libérer les dissidents soviétiques. Alors, c'est pas n'importe quelle ville ouvrière, c'est Saint-Nazaire. C'est pas n'importe quel personnage concernant le conseil municipal de Saint-Nazaire. C'est des socialistes et des communistes. Faut dire que la légende, mais non pas la légende gatienne, mais la légende de Durupt, et elle pas forcément fausse, fait que à la fin du conseil municipal où une subvention spéciale a été votée pour la venue de Gatti à Saint-Nazaire, Le maire de l'époque, dont je ne me souviens plus le nom, peut-être encore avant. En tous les cas, le maire de l'époque dit, bon, et alors concernant la subvention de l'AMJEP pour Gatti, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas été voté, simplement, personne n'a osé dire qu'il y avait un problème. Et les camarades communistes de l'époque, on est en 75, le parti communiste est un parti beaucoup plus important qu'il n'est maintenant, et en tous les cas, qui est quand même très proche de la pensée des soviétiques. Et donc, et c'est comme ça qu'une subvention est attribuée, c'est comme ça que Gatti peut venir à Saint-Nazaire travailler pendant 6 mois. Il sera accompagné de différents compagnons habituels, dont des gens que Françoise Thirion connaît bien, les frères Dardenne, qui sont venus faire des films, mais aussi d'autres personnes, et qui a débouché en 76 sur une expérience sous un chapiteau à côté de l'AMJEP, où toute une série de groupes sont venus présenter en gros leur réflexion, leur expérience, leur création autour du titre de cette expérience qui s'appelait « Le canard sauvage qui vole contre le vent ». Le canard sauvage, voilà.
Le canard sauvage qui vole contre le vent.
Voilà. Et pourquoi ? Alors, et pourquoi ? Vous savez pourquoi qu'il vole contre le vent ? Parce que s'il vole dans le vent, ses ailes gèlent. Et donc, il faut qu'il vole contre le vent pour que ses ailes ne gèlent pas.
Il faut dire aussi que Armand Gatti, depuis le Brabant wallon, a mis son écriture au service des autres. C'est très important. Il s'approche des gens et écrit sur les gens. Donc, il y a quand même un passage dans sa vie qui est très important sur son écriture. Il a créé la tribu, il a créé tout un groupe de gens qui vont le suivre très longtemps. Et voilà, c'est une transition très importante dont Saint-Nazaire est l'aboutissement.
C'est sur ces mots qui conduisent au maquis, une fois de plus, que nous allons terminer cette émission. Merci Françoise pour cette petite précision, merci. À bientôt donc pour une prochaine émission. Jean-Jacques Hocquart, au revoir.
Au revoir Michel Weimer, au revoir Jean-Jacques Hocquart, et à la semaine prochaine, n'est-ce pas ?
Eh ben oui, je reviens.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Françoise Thirion et Michel Valmet.